Bekeluka.
Il est 13h à Bangui, la grande édition de la mi-journée, c'est avec Christo Roy Jordan Badengbe. Jordan, bonjour.
Bonjour Marcel Mbakula, bonjour à tous. Bangui rejette en bloc l'existence d'un ultimatum venant des États-Unis pour exiger le départ des paramilitaires russes de Wagner, à suivre les réactions de la présidence et des affaires étrangères. Et puis la première session ordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvre cet après-midi à Bangui. En plus du renouvellement de leur bureau, les députés vont examiner plusieurs projets de loi. Les enjeux de cette session à découvrir dans ce journal. Au sommaire également, ouverture aujourd'hui à Libreville au Gabon d'un sommet mondial sur le climat. Le financement de la gestion des forêts dans le monde est au cœur de cette rencontre qui réunit plusieurs gouvernements du monde. Démarrage demain des matchs retour du championnat de la Ligue de Bangui à l'affiche à Estompet Mokaf, Racing Club du 3e arrondissement.
À la une de ce journal, les États-Unis ont-ils vrai ou faux demandé aux autorités centrafricaines de se séparer des paramilitaires russes de Wagner?
Première réaction, celle de la présidence de la République. Son porte-parole dénonce une désinformation et affirme ne pas avoir connaissance d'un document pareil. Albert Yalokimopem est au micro de Bonaventure Gumba Kachikiro.
L'ambassadrice des États-Unis a été reçue par le président de la République hier après-midi. Et à sa sortie, elle a accordé une interview à la presse présidentielle pour démentir justement ces allégations-là. Je peux vous répondre clairement. Depuis quelques jours, un certain nombre d'informations circulent aussi bien sur les réseaux sociaux, dans les médias nationaux que dans les médias internationaux, notamment les médias français qui battent une grande campagne contre la République centrafricaine. Moi, je le dis, que ce soit France 24, RFI, Jeune Afrique, Le Monde et autres, ces médias qui disent des choses. L'information, c'est que les États-Unis auraient donné un mémo au président Faustin Archange Touadéra, qu'ils sont prêts à former notre armée nationale, à nous aider, à nous rendre beaux, à une condition que nous arrêtons notre relation avec la Fédération de Russie. C'est tellement lancinant. Bon, est-ce qu'il y a un mémo? J'ai pas de mémo. Ben, il faudrait bien qu'on en parle.
La diplomatie centrafricaine rejette elle aussi cette information. Pour la ministre Sylvie Beipotemo, il s'agit d'une fausse information visant à tromper le public. Elle est interrogée par Jean-Fernand Kouina.
Beaucoup de gens parlent, vous savez, on dit beaucoup de choses, mais les concernés, les États-Unis et la République centrafricaine ne disent rien. Ils sont dans une relation de coopération qui existe déjà depuis. Vous savez qu'il y a une ambassade américaine en terre centrafricaine qui appuie la République centrafricaine depuis un certain temps dans le programme de désarmement, du DDRR, dans des programmes de renforcement des institutions républicaines. Et nous continuons à vouloir renforcer notre coopération. Le président de la République a été invité à Washington lors du sommet USA-Afrique, au même titre que d'autres. Et la volonté, c'est de pouvoir aller à l'image, en tout cas à l'impulsion de ce que le président de la République impulse comme politique étrangère, c'est d'ouvrir la République centrafricaine à diversifier ses partenariats. Donc les pays qui souhaitent venir travailler avec nous, nous sommes ouverts. Et dans toute relation, il y a ceux qui partent, ceux qui restent, ceux qui veulent venir. Donc nous sommes disposés. Notre position est constante maintenant. Vouloir prêcher le faux pour connaître le vrai, ça n'engage que ceux qui le disent.
Nous vous présentons nos excuses pour cette qualité sonore. Alors que Bangui rejette cette information parlant d'une fake news, plusieurs médias occidentaux ont confirmé l'existence de ce document dans lequel les États-Unis auraient donné un délai de 12 mois aux autorités centrafricaines de se séparer des paramilitaires russes de Wagner, un dossier que nous suivons encore de près.
La première session ordinaire de l'Assemblée nationale de l'année 2023 s'ouvre aujourd'hui à Bangui. Durant 90 jours, les députés siégeront sur plusieurs projets de loi et renouveleront leur bureau.
Oui Marcel, cette session s'ouvre dans un contexte de forts soupçons de malgouvernance au Palais du Peuple. Les précisions d'Igor Deskin-Sinapaï.
La gestion de l'Assemblée nationale souffre de transparence ces derniers temps. Une note du président Simplice Mathieu Sarandji a dénoncé en 2022 des missions parallèles qui échappent au contrôle du numéro 1 de l'institution ainsi que des appels de fonds qui n'ont pas respecté les règles de l'art. Selon certaines sources proches du Parlement, le gouvernement décaisse mensuellement 75 millions de francs CFA pour le fonctionnement de la dite institution. Cependant, cet argent n'est pas utilisé à bon escient. Nos sources expliquent que pour preuve, les députés n'ont pas de toilettes répondant aux critères d'une institution digne de ce nom. Le personnel travaille dans des conditions précaires, faute d'accès à l'Internet. L'institution est confrontée au manque de fourniture de bureaux, au retard dans le paiement à terme et échu du salaire. Pour illustration, en 2022, le bureau actuel fait savoir aux députés que 10 mois de frais de fonctionnement n'ont pas été versés par l'État, mais à la fin de l'année, ce même bureau est revenu à la charge pour dire que la ligne concernée était déjà consommée. Cette situation a entraîné la mise en place d'une commission de comptabilité et de contrôle dirigée par le député de Bambaré 3, Anatole Demagoudagbago. Mais le rapport de cette commission, remis au bureau depuis le 21 octobre 2022, n'est pas présenté à la plénière jusqu'aujourd'hui. Une pratique en violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Selon nos informations, les députés, membres de cette commission, ont relevé des cas de détournement, corruption, trafic d'influence et malversation financière sur presque toutes les lignes du budget de l'Assemblée nationale. Cette session sera rude car les députés, élus au bureau en mars 2022, doivent défendre leur bilan afin de convaincre leurs collègues s'ils souhaitent rester membres du bureau qui sera mis en place.
Merci à vous, Igor Djeskin-Sinapay.
Direction à présent la ville de Nola, dans la Sangambaré, où deux cas de noyade sont signalés hier.
Il s'agit de deux adolescents dont la tranche d'âge varie de 12 à 19 ans. Le drame s'est produit sur la rivière Kadi à Nola. Pour l'instant, le corps de la fille de 12 ans a été repêché par les pêcheurs alors que l'autre victime reste introuvable. Prudence, témoin de l'événement, explique les faits au micro de notre correspondant à Nola, Emi Fred Tanaïsi.
Je faisais le linge à la fin. Mes deux cadets étaient venus. Je leur ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils étaient venus faire ici à la rivière. Je leur ai demandé de rebrousser chemin car le moment n'était pas favorable. Ils ont insisté de se baigner dans la rivière, mais je me suis opposé à leur volonté. Au moment où je portais mes habits, ils se sont jetés à l'eau. À ma grande surprise, j'écoutais des cris. Aïe, aïe, aïe. Et ces enfants étaient partis. J'ai supplié un propriétaire de pirogue s'il pouvait sauver ses deux enfants contre une somme d'argent allant jusqu'à 10 000 francs CFA, mais il a refusé. J'ai couru pour me noyer avec eux, mais les gens étaient venus m'intercepter. J'ai pleuré longtemps avant d'aller à la maison pour interpeller la famille. Les victimes s'appelaient Lori et Narcisse.
Lori et Narcisse.
Radio Nikiluka, les 100.9 FM, autre fait de l'actualité, on célèbre ce 1er mars la journée mondiale de la protection civile sur le thème rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques.
Ici à Bangui, la direction générale de la protection civile vient à peine de se remettre après plus d'un an d'inactivité. Hier, les volontaires de ce service de secours ont tenu leur second grand rapport de l'année 2023. Thomas Dimassé, son directeur général, au micro de Alexia Félix Yangmandi.
Des sapeurs-pompiers volontaires, ils aiment ce qu'ils font. Ils sont restés un an sans être employés. Et le fait que l'État fait des efforts pour leur prise en charge, cela les motive. Les entraînements ont repris, les gardes ont repris, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ils sont sur tous les fronts, sur tous les feux, ils sont là. Dans les quartiers, ils sont applaudis et ça leur rend la fierté. Nous avons les véhicules à incendie avec tous les équipements qu'il faut, les lances. Nous avons également des équipements protection individuelle, les bottes, la tenue des sapeurs-pompiers volontaires. Il nous manque encore le numéro vert, mais nous sommes en train de négocier un numéro classique auprès des opérateurs téléphoniques de la place. Si cela marche, bientôt on aura également ce numéro vert où les populations pourront utiliser pour appeler en cas de secours.
Thomas Dimassi est notre invité. Vous pouvez suivre l'intégralité de son entretien sur les www.radiodekeluka.org.
Ouverture ce matin à Libreville au Gabon du One Forest Summit.
Oui, le One Forest Summit est un rendez-vous sur le climat. Celui-ci est consacré à la présentation et la gestion durable des forêts. Au cours de ce sommet de deux jours, des politiques, des experts scientifiques vont parler de l'importance des trois grands bassins forestiers du monde et la problématique du financement de leur gestion durable. Le point avec Rodrigue Leroy-Benga depuis Libreville.
Les forêts du bassin du Congo sont une réserve importante de ressources économiques, mais elles constituent aussi l'un des poumons de la planète qu'il faut entretenir. Comment faire l'alliance entre la conservation des forêts et le développement économique des pays forestiers? Voilà ce qui est attendu de ce sommet. Le One Forest Summit de Libreville n'a pas pour objectif de faire adopter de nouvelles déclarations politiques ou des recommandations, mais de proposer aux pays forestiers, avec l'aide de nombreux scientifiques et des chefs d'entreprise, des solutions scientifiques et économiques pour les aider à concilier la protection de leurs forêts avec le développement économique. Qu'est-ce qui peut être proposé? C'est la question que beaucoup se posent. Un panel de scientifiques réfléchit aujourd'hui et demain sur la question. Mais l'on nous parle déjà des possibilités de crédit carbone. Les forêts jouent ce rôle de réduction du taux de dioxyde de carbone qui est un gaz nocif. Les pays qui conservent leurs forêts participent à la réduction de la quantité de ce gaz et donc peuvent bénéficier de ces crédits carbone. Pour empêcher la destruction des forêts, l'Union européenne et surtout la France présente à ce sommet compte mettre en œuvre le règlement européen qui interdit l'importation en Europe du bois sous forme de grumes. Cela permettrait aux pays forestiers de faire de la transformation sur le plan local et donc réduire le chômage. L'Union européenne prévoit aussi des sanctions contre des entreprises qui feront entrer sur son territoire des produits issus de la déforestation massive. Voilà des mesures qui pourraient peut-être encourager à la préservation des forêts. Reste la question du financement. Le One Forest Summit doit trouver des partenaires de financement. Cette problématique est aussi confiée à un panel dont on attend les engagements. Après des discours d'ouverture, les travaux se déroulent en groupe d'experts et les comptes rendus seront faits demain à la clôture. Le One Forest Summit, qui intervient 3 mois seulement après la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte, mobilise une dizaine de chefs d'État, dont le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Rodrigue Leroy-Binga, Libreville, Radio Ndekeluka.
Actualité internationale, en bref, Bola Tinubu remporte l'élection présidentielle au Nigeria.
L'annonce a été faite ce matin par la commission électorale. Selon l'INEC, Bola Tinubu du Congrès des progressistes APC a accumulé près de 8,8 millions de voix, remportant l'une des élections les plus disputées de l'histoire démocratique du Nigeria face à ses deux principaux concurrents. Atibu Abubakar, le candidat de la principale formation de l'opposition qui a dirigé le pays de 1999 à 2015, a recueilli 6,9 millions de voix. L'outsider Peter Obi du parti travailliste LP, dont la popularité auprès de la jeunesse a donné un nouvel élan à cette campagne, a remporté 6,1 millions de voix. Il doit succéder au président sortant Muhammadu Buhari, 80 ans, qui se retire après 2 mandats comme le veut la Constitution.
Et puis le président français Emmanuel Macron entame aujourd'hui une tournée en Afrique centrale.
Le chef de l'État français est attendu en cette fin d'après-midi à Libreville au Gabon, première étape d'un périple qui le conduira ensuite en Angola, au cours et en République démocratique du Congo. L'occasion d'éprouver la nouvelle relation qu'il appelle de ses voeux avec un continent où l'influence de la France ne cesse de reculer. Emmanuel Macron effectue ainsi son 18e déplacement en Afrique depuis le début de son premier quinquennat en 2017. Il s'y rend surtout 2 jours après avoir exposé depuis Paris sa stratégie africaine pour les 4 ans à venir. La passeport est avec vous, Claire Assambadinga. Claire, bonjour.
Bonjour, Kaiswa Jordan Badengbe, confort d'écoute à tous.
Football, démarrage demain du championnat retour de la Ligue de Bangui en première division, stade Barthélemy Bouganda.
Effectivement, à 15h, ça sera un duel entre Tempête Mukaf et Racing Club du 3e arrondissement. Le match prévu vendredi entre Red Star et Assopété a reporté à une date ultérieure. Motif, l'absence des 3 joueurs de Red Star convoqués en sélection des U20 pour la CAN de leur catégorie en Égypte.
Du football continental, les quart de finale de la CAN des moins de 20 ans démarre demain en Égypte.
Oui, à 15h, les Lions de la Teranga du Sénégal affronteront les Requins du Bénin. À 18h, les Hippopotames de l'Ouganda croiseront le fer avec les Super Eagles du Nigeria.
Basketball clair, les Fofs de Bazoubongi, Rodrigue, Stéphane Kobilo et Dan Bayigo Dari se sont bien installés avec leur nouveau club, Oufet Boigny Université Club à Abidjan, Côte d'Ivoire.
Oui, les deux internationaux intègrent HBUC au moment où le championnat allait de la Côte d'Ivoire a pris fin. Rodrigue, Stéphane Kabilo et Dan Baigo Dari ont 6 mois pour jouer dans cette équipe de première division ivoirienne. Suivant la réaction du meneur Dan Baigo Dari que nous avons joint depuis Abidjan.
C'est un club qui est jeune, on a été bien reçu, on s'entraîne bien, on est dans de bonnes conditions. Notre objectif, c'est de défendre les couleurs de la République centrafricaine parce qu'ici, on est les ambassadeurs de la République centrafricaine. On doit mouiller le maillot, se donner à fond pour pouvoir ouvrir la porte à nos frères qui sont à Bangui. Si on arrive à bien jouer ici, les clubs vont se dire qu'il y a beaucoup de talent en République centrafricaine. Par cette voie, il y a nos frères qui vont sortir en fait. On va tout faire pour les envoyer en play-off, comme ça, ils seront maintenus en première division. Peut-être jouer le titre l'année prochaine. Notre deuxième objectif, c'est de s'entraîner ici à fond avec la présélection, être prêt à aller défendre les couleurs du pays, avoir la qualification à la prochaine.
Dan Baigo, Dari et Rodrick Stéphane Kabil ont été aussi convoqués par la direction technique de la Fédération centrafricaine de basketball pour les éliminatoires de la zone 4 pour l'AfroCAN. La compétition est prévue du 19 au 26 mars prochain à Yaoundé.
C'est la fin de cette édition sur Radio Ndekeluka. Merci à vous de l'avoir écoutée.